Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue à l'émission. Vous vous êtes déjà demandé si vous pouviez devenir athlète élite après 30 ans? C'est ce qui est arrivé à Romuald. Voilà que ce marketeur s'est retrouvé à plaquer la machine à café et les conf-calls pour aller taquiner les chemins et devenir athlète élite, à l'âge où beaucoup terminent leur carrière sportive. Il nous raconte comment gérer un entraînement de haut niveau en même temps qu'une vie professionnelle, et comment il a dû s'adapter avec l'annulation de toutes les courses de son calendrier. Pendant que vous écoutez Romuald, vous allez vous abonner au Serment d'Hippocrate sur votre application de podcast préférée, vous allez partager l'épisode avec vos amis, et vous allez nous suivre sur Facebook et Instagram, @SermentDHippocrate tout attaché. Si, je vous jure, faites-moi confiance. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui je reçois Romuald Brun, bienvenue Romuald, merci d'être venu. Tu es coureur élite et tu travailles en parallèle du coup dans la vente et marketing dans le monde du sport, mais c'est donc... comme ça qu'on est venu à se connaître, puisque tu es ambassadeur de la clinique du coureur et moi aussi, donc on a eu l'occasion de se rencontrer comme ça. Les quelques points marquants de ta carrière de sportif, ça serait une troisième place au Festival des Templiers Mona Lisa en 2017, je crois, et plus récemment, deuxième au 35 km de l'Ushuaïa à UTMB. Après, tu cours aussi sur route, tu fais pas que du trail, hein, donc fais un petit 2h30 à Valence, qui est quand même très très beau comme temps. Bienvenue.
Merci, salut Ben, bonjour à tous.
Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de comment en fait un niveau élite comme ça on gère son entraînement. Mais d'abord voilà, j'aurais bien voulu que tu te présentes un petit peu pour ceux qui te connaîtraient pas. Donc si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment t'en es venu là, parce que t'as pas toujours été coureur élite.
Ouais, c'est ça, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire, dans le monde du sport, dans la pratique du sport, la course à pied. Si on retourne très longtemps en arrière dans ma jeunesse, moi, je viens du 3000 mètres steeple à l'époque. Donc, j'ai commencé la course à pied par la piste. Donc, j'étais un ancien pistard. 3000 mètres steeple, tout se passe bien. Et puis, en fait je me blesse au psoas iliaque. Donc là, on parle d'un muscle très important pour le coureur. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc, une déchirure au psoas qui fait qu'à un moment un peu clé dans la jeunesse, qui fait que où tu t'orientes vers une carrière tout de suite élite, pro, très jeune, ou alors tu dis que c'est peut-être le moment d'aller faire autre chose, notamment des études.
Donc, ouais, pour ceux qui ne situent pas, je me permets, mais le psoas, du coup, c'est un muscle assez important, en fait, qui au niveau de la hanche et bas du dos, qui, du coup, a un rôle extrêmement important dans la course à pied, puisqu'il est engagé, par exemple, dans le lever de la jambe, ce qui est quand même un truc relativement important quand tu cours. Voilà, je t'en prie, continue.
Oui, effectivement, donc à ce moment-là, moi, j'ai un bon temps et la priorité reste les études. Donc, les études dans le monde du sport et donc effectivement qui m'ont amené à travailler pour différentes marques dans l'univers sportif pour la suite. En parallèle, je laisse quasiment de côté le sport pendant quasiment 10 ans. Je pars vivre 2 ans à Barcelone à 25 ans, donc c'est une époque où le sport était très loin. Je laisse tomber ça et puis professionnellement, j'ai l'opportunité de retravailler pour une marque de running. Donc pour Ultra Running et je trouvais vraiment un sens à ce produit-là, qui est un produit un petit peu différent, et du coup je me dis ça a du sens peut-être d'aller mettre les chaussures moi-même et puis d'aller voir un petit peu où j'en suis. J'ai une trentaine d'années et puis en fait il se trouve que dans les sports d'endurance notamment, l'âge n'est pas toujours un facteur très aggravant. Donc voilà, comme tu l'as dit, Mona Lisa, on met une paire de chaussures et puis ça se passe plutôt bien pour accrocher un podium, et puis derrière je décide de me tester un petit peu sur des courses plutôt courtes. Donc courtes, pour préciser, en trail, c'est 30-35 jusqu'au marathon. C'est des formats assez courts en trail. Et là, tout se passe bien. J'enchaîne une 6e place aux US. Pareil aux 30 Grand Canaria, etc. Un podium. Donc je me dis, bon, c'est peut-être le temps de s'y remettre un petit peu plus sérieusement.
Ouais.
Et du coup, de là, je me retrouve avec un contrat élite avec différentes marques. Et puis à reprendre le goût et y retourner, à s'entraîner de façon très intensive, à maintenant 38 ans.
Ouais, et puis ça fait du coup maintenant, en gros, tu t'es vraiment remis dedans donc depuis à peu près 3 ans, quoi.
Ouais, c'est ça. 3 ans.
Enfin, peut-être même un peu plus d'ailleurs, parce que, ouais.
Un petit peu plus en vérité, mais en tout cas, ça fait 3 ans que j'ai décidé de reprendre un entraînement sérieux, calibré, avec du coaching, avec un plan, un objectif, ce qui était jusqu'alors pour moi très loin, puisque je courais juste pour me faire plaisir, etc.
Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que sur un. Comme tu dis, voilà, t'es pas âgé, mais t'as pas 23 ans, quoi, tu vois, donc. Même si t'as été sportif plus jeune, c'est quelque chose que t'as un peu négligé, et pourtant ça t'empêche pas d'avoir quand même de très belles performances, alors que tu t'y es remis finalement plutôt sur le tard. Mais c'est l'idée que voilà, on peut se remettre en forme et atteindre un certain niveau de potentiel même plus tard dans la vie. Après, oui, peut-être que si t'avais fait ça à 65 ans, ça serait pas pareil. Hein. Mais voilà, on reste quand même apte sur les sports d'endurance à faire des choses comme ça, quoi.
Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs critères là aussi. Il y a, bon, évidemment, le fait de s'être entraîné à un certain niveau jeune, peut-être que ça te laisse ce qu'on appelle souvent dans le corps une espèce de mémoire de l'entraînement, de l'épreuve, etc.
J'en suis convaincu.
Autre chose, c'est que en fait, toute cette période où tu t'entraînes pas aussi, ça veut donc dire que ton corps est assez neuf, entre guillemets. Donc, quand tu arrives à un âge qui peut paraître un petit peu élevé pour la compétition, finalement, tu restes très jeune, toi, musculairement, parce que tu n'as pas passé plus de 15 ou 20 ans à accumuler des bandes toutes les semaines. Donc, musculairement, finalement, tu es assez jeune, parfois un peu trop tendre, d'ailleurs, parce qu'il faut réhabituer le corps et avoir une musculature qui est particulière. Et c'est peut-être ça qui prend parfois le plus de temps. Après, la plus grosse difficulté, ce qu'on dit souvent avec l'âge, c'est de garder la vitesse, au final. Parce que l'endurance, ce n'est pas un point gênant avec l'âge. La vitesse, on a tendance à en perdre petit à petit. Alors, quand on se parle d'une distance comme le marathon, c'est moins grave. Sur un 10 km, c'est peut-être plus gênant, etc. Mais oui, l'âge, et merci pour moi, n'est pas toujours ultra pénalisant. En tout cas, pas dans nos sports à nous, les sports d'endurance. Quoi.
C'est vrai que je me souviens d'une... Alors, je sais plus du tout où j'avais vu ça. J'ai regardé un graphe qui était sorti d'une étude qui montrait, en fait, des performances moyennes par tranche d'âge. Et du coup, ce qu'ils présentaient, en fait, c'est que la plupart des coureurs atteignaient genre leur plein potentiel, vraiment leur max, d'accord. Pour ceux qui, je crois que c'est des gens qui commençaient assez jeunes. Hein. Ils atteignaient leur max vers la fin de leur vingtaine, donc en gros 28 ans, quoi, à peu près. Hein. 27-28, ils atteignaient leur max. Ensuite, ils avaient un espèce de déclin en termes de vitesse, mais qui descendait pas forcément tant que ça, mais ils perdaient un petit peu en temps. Par contre, ils se rapprochaient à nouveau de ce max plus tard dans leur vie, vers 40 ans et plus. Donc, mais là, ça parlait spécifiquement de course à pied. Hein. C'était pas, j'ai plus le contexte. Hein, mais c'est juste pour donner une idée. C'est dans ces sports d'endurance, il est possible en fait de te rapprocher à nouveau de ton max, même après la quarantaine, même plus tard. Je crois qu'ils trouvaient des temps quand même super intéressants vers 50 ans et compagnie, quoi.
En fait, il y a aussi une notion dans ton corps de poids. Capable d'accumuler les kilomètres, de les encaisser et finalement de pouvoir les ressortir d'une certaine manière. Donc, il faut pouvoir encaisser tout ce borne, toutes ces bornes que tu fais chaque semaine. Et effectivement, sur un corps trop jeune, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, on va peut-être mettre à part certains Kenyans ultra-élites qui, eux, ont un parcours quand même flèche très vite, très rapide, c'est-à-dire qu'ils montent très vite sur les grandes distances, mais très vite, ils en sortent aussi.
Ouais.
Mais sinon, pendant des années, les meilleures performances, par exemple, sur marathon en route, là, cette fois je parle, se situaient autour de la trentaine. Donc, donc là, je n'ai pas toujours un facteur aggravant. Après, ça nécessite de prendre son corps différemment, on va dire, et l'entraînement doit aussi adapter à ça.
Oui, c'est vrai que cette dimension de développer aussi, être capable en fait de progresser petit à petit sur l'entraînement. C'est quelque chose que dont ça parle beaucoup lorsqu'on parle de performance élite sur le marathon, puisque la plupart des meilleurs temps ont été signés par des gens qui sont plutôt proches, ont plus tendance à être proches des 35 ans que des 25. Quasiment tous les meilleurs temps, la plupart des grands coureurs de marathon en fait ont signé leur meilleur temps plus tard en fait, plus tard dans leur carrière de coureur.
Oui, bah, en fait, il y a cette notion de progressivité là dont on parle aussi, il y a cette notion de vitesse aussi, c'est-à-dire que autant tu vas monter facilement d'un 5 km, 10 km, un semi, un marathon, donc il y a une certaine logique de progression, c'est-à-dire que tu amènes ta vitesse et tu essaies de la maintenir le plus longtemps possible. Mm-hmm. Donc ça, c'est le schéma idéal. Et ce qu'on retrouve de façon un peu plus classique, c'est pour ça que c'est plutôt évident finalement d'avoir une courbe de performance à un âge un peu plus élevé en marathon. L'inverse est beaucoup plus compliqué. on n'a pas trop d'exemples aujourd'hui de quelqu'un qui commence par un marathon et puis qui va aller chercher une performance sur des courses plus vite. Cette progressivité, aujourd'hui, finalement, elle est assez logique. Elle est parfois un peu remise en cause aussi, hein, parce que il y a une époque où, quand je parle comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être un vrai vieux. Il y a une époque, en fait, on disait qu'il y a un nuage sur lequel il fallait, j'allais très jeune, hein, il fallait pas monter trop vite sur du 10, puis il y avait un nuage où il fallait pas aller trop vite sur un semi, puis il y a un nuage où il fallait pas aller trop vite sur un marathon. Moi, je considère que c'est toujours un peu vrai. Maintenant, on a aussi des exemples qui montrent que, en brûlant certaines étapes, il y a des très bonnes performances qui ont lieu aussi. La question qu'on peut se poser derrière, c'est la longévité, c'est-à-dire cette fois, c'est combien d'années tu vas réussir à rester à un certain niveau. Et là, c'est peut-être notre question.
Oui, ce qui est pas forcément simple. Et, mais j'aime bien cette image que tu nous présentes de d'avoir, tu sais, un corps, tu vois, un corps qui a pas été usé. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, lorsqu'on regarde la performance sportive, on met un peu de côté la santé. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je vois. Enfin, la majorité des clients sportifs avec lesquels moi je me retrouve à travailler, par exemple, c'est des gens qui se sont focalisés sur la performance jusqu'au moment où il y a un truc qui a cassé. Et quand je dis cassé, ça veut pas forcément dire une blessure, ça peut aussi être au niveau alimentaire, au niveau mental, enfin, mais il y a un truc qui a arrêté de fonctionner. Et cette idée que la performance et la santé c'est la même chose, enfin, pour moi, elle est complètement fausse. C'est-à-dire que la santé peut apporter la performance, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ta performance optimale, on va dire, vraiment, quand on dit performance, disons, ton meilleur chrono. D'accord? Peut-être que si on prend sur un truc que les gens connaissent déjà mieux, on va dire un marathon, on va dire que ton meilleur temps au marathon, le jour où tu vas réussir à le faire, peu importe ton contexte de vie, etc., c'est pas forcément à ce moment-là que tu seras dans le meilleur état de santé. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement, peut-être que pour être arrivé jusque-là, il aura fallu maintenir un certain niveau de santé, parce qu'évidemment, si ta santé est sévèrement touchée, bah, ça va être difficile d'obtenir la performance. Mais par contre, ça veut pas forcément dire que parce que t'as fait ton meilleur temps, t'es au summum de ta santé. Parce que tu peux avoir cumulé beaucoup d'entraînement, tu peux avoir fait des concessions, en fait.
Mais c'est ce curseur qui est le plus compliqué à placer, on va dire, quand tu fais un sport à un certain niveau, c'est toujours un peu à la rupture, en fait.
Ouais.
T'es à la rupture parce que, par exemple, si on prend le cas d'un marathon, on sait tous qu'un marathon, il faut accumuler des kilomètres. Donc, ça veut dire que tu montes en charge. C'est-à-dire qu'il faut d'abord pouvoir être capable d'accepter, c'est pour que ton corps il puisse accepter tous ces kilomètres par semaine qui peuvent être entre 100, 150 ou certains montent jusqu'à 200 kilomètres par semaine. Il faut d'abord pouvoir l'encaisser. Après, il faut y mettre du rythme, de la vitesse et ça sur une période donnée qui est globalement une préparation entre 3 et 4 mois en fonction de l'athlète. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, et c'est ce qu'on cherche dans le pic de forme, on va être à la limite. Et il est très difficile, et d'ailleurs dans toutes les prépas marathon, de faire une prépa où tout se passe à merveille. Parce que justement, tu es limite. Alors peut-être qu'un jour, tu vas être juste au-dessus et tu vas avoir un petit pépin, une petite alerte et tu vas pouvoir redresser ce curseur-là. Mais il est très dur de le maintenir jusqu'au bout et d'arriver pile, clean, en forme. Il y en a tous des exemples où on tombe malade la semaine d'avant ou des choses comme ça parce que justement, on est arrivé sur un curseur, un pic de forme aussi, mais un petit peu élevé. Et là, ça peut passer ou alors au contraire, on peut arriver à une contre-performance.
Moi, moi qui suis pas sportif élite, qui fait vraiment ça pour le plaisir, mais bon, j'essaie quand même toujours de me pousser en termes de perf. Je sais que j'ai eu des moments comme ça où j'avais l'impression d'être, au mieux de ma forme. Et en fait, maintenant, je regarde objectivement que, ouais, niveau temps, j'étais bien. Niveau métrique, on va dire, c'était bien, mais en fait, il y a plein d'autres trucs qui allaient pas. Parce que j'avais poussé le métrique, tu vois. Donc, je m'étais trop concentré sur la performance et pas assez sur la santé à ce moment-là.
Mais moi, j'ai plein d'exemples de courses ou de semaines avant la course où je tombe malade.
Ouais.
Et je pense que ça, beaucoup d'athlètes, pas grand-chose, hein, un petit rhume, un petit mal de gorge, un truc, etc. Parce que t'es prêt, mais donc t'es fragilisé à ce moment-là. Et ça joue à pas grand-chose. Et du coup, tu as toujours l'impression que tu vas finalement rater ta course parce que t'es un petit peu malade la semaine d'avant. Donc parfois, c'est le cas. La course est plantée. Et puis parfois, en fait, c'est juste que t'es en train de réagir parce que finalement, tout ce que tu t'amène à ton corps, tu l'agresses en quelque sorte, donc il y a une réaction. Et finalement, parfois ça passe, mais comme tu dis, tu n'étais peut-être pas à 100%, mais l'entraînement a fait que ce jour-là, ça a permis de le faire, mais la santé était peut-être un peu moins bien, etc. Mais c'est important, cette notion, moi, je pense en général, de finalement de progressivité. C'est un truc qu'on prend souvent le trop vite, trop fort, trop longtemps, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que si tu veux te lancer dans une prépa marathon, ben, ok, peut-être, mais il y a une progressivité à amener là-dedans, il y a peut-être à un moment donné faire des points de passage pour voir si ton corps il a accepté, comment ça se passe, peut-être qu'il faut recadrer des choses, est-ce que c'est une question de vitesse, est-ce que c'est une question de kilomètre. Mais oui, et après, il y a, pour reprendre le point du début, il y a cette notion de où en est ton corps, qu'est-ce qu'il a eu jusqu'à là, quel est son historique, etc. Donc, quand on a fait de l'ultra-trail à partir de 20 ans, bah, peut-être qu'on va être un petit peu plus usé à 25 que quelqu'un qui va se lancer dans une préparation marathon plus tard, parce que son corps, il a peut-être un petit peu moins subi, il est peut-être moins prêt aussi, mais il est peut-être un peu plus jeune, en tout cas, dans le côté physiologique.
Oui, parce que je pense que tu as un truc que donc, ton entraînement, en fait, il va certes provoquer des dégâts, c'est-à-dire que... Mais il y a des dégâts qui vont être positifs, c'est-à-dire que en fait c'est un stress positif hein, que ça va apporter, donc ça va aider au développement. Mais à côté, je veux dire, un parcours n'est jamais vraiment purement linéaire, surtout dans un sport comme le trail où tu peux, de temps en temps, tu vas te casser la gueule, tu vas t'éclater sur un rocher ou je sais pas, tu vas te bouffer une branche, peu importe. Bref, toutes ces petites blessures qui s'accumulent, c'est trois fois rien sur le coup, mais rajoute ça à l'échelle de 15 ans d'entraînement. C'est des petits trucs, tu vois, donc ça peut aussi, du coup, être ce poids en plus que tu portes. Et donc, c'est pour ça que j'avais bien aimé cette image du corps un peu neuf. Et c'est, enfin, ouais, ça me parle en tout cas. Enfin, j'imagine bien ça. Je sais pas s'il y a une validité scientifique derrière, mais enfin, j'aime bien le voir comme ça. Moi, j'ai toujours imaginé le truc comme, tu sais, en gros, tu travailles en fait avec une espèce de, on va dire, une bassine de stress. Physique, mental, et tu peux en mettre autant que tu veux dedans, jusqu'au sommet, en fait, t'as un 100% qui t'est propre, tu vois, toi, Romuald, n'a pas le même que moi, Ben, tu vois, enfin, etc., ton, par exemple, le stress chez une personne va prendre plus de place chez une autre, etc., et l'idée, c'est que, tant que tu remplis pas trop ta bassine, globalement, tu peux encaisser pas mal de, tu vois, c'est, si tu veux transporter un seau d'eau et que tu le remplis qu'à moitié, ça débordera quasiment jamais si tu trébuches, ça débordera jamais si le sol est un peu instable, quand tu descends les escaliers. Par contre, si ton stress il est à ras-bord, donc ton seau d'eau il est à ras-bord, tu vois, c'est plus difficile de le déplacer, et il va y avoir des ratés, quoi. Donc, moi j'aime bien le visualiser comme ça, et c'est vrai que en se laissant dans un contexte, que ce soit de l'entraînement ou juste de l'entretien de santé, se laissant beaucoup de marge de manœuvre, ça fait que tu peux encaisser les petits aléas, tu vois. Enfin, et du coup, ouais, c'est ça, effectivement, comme tu dis, en se préparant pour une compète, en fait, parce que tu veux être au summum du summum, ce fameux seau d'eau, cette fameuse bassine, tu remplis, en fait, tu veux être à 99%, tu vois, et c'est tellement vite fait, en fait, de déborder.
C'est ça, et c'est le plus dur, d'ailleurs, quand on essaie de quantifier, finalement, la dose d'entraînement ou même le stress mécanique qu'on se met, c'est comment tu le contrôles aussi. Donc, il y a parfois des petites alertes qu'il faut savoir prendre en compte. Les alertes, elles peuvent être de la fatigue, elles peuvent être une petite accidentologie parce que tu vas te faire un trottoir, une cheville, ce genre de choses. Donc, il y a des petites choses à prendre en compte dans ton entraînement parce que le corps n'est malheureusement pas juste un ordinateur sur lequel on dit il y a un point de départ, un point d'arrivée, puis tu vas y aller comme ça. Donc, il faut savoir prendre tout en compte. Moi, j'aime bien la notion de progressivité d'une manière générale parce que finalement, ça résume un petit peu ce qu'est le sport. C'est-à-dire que petit à petit, on monte une marche, on en monte une autre, on se muscle, on devient plus endurant, on devient plus rapide, etc. Et en fait, l'erreur, ça serait de vouloir aller tout de suite à l'arrivée en gagnant ces étapes.
Je pense que c'est là que beaucoup de gens se font avoir, en fait. Surtout, enfin, plutôt chez les sportifs amateurs, peut-être. Enfin, peut-être plus chez les sportifs amateurs que chez les sportifs élites et pros. Parce que t'as beaucoup ce truc où... Je vois souvent des gens qui se mettent à la course à pied, puis 2 ans plus tard, boum, marathon, quoi. Et ils cherchent à faire un temps, alors que c'est leur premier, donc ils ont des objectifs qui sont, enfin, juste, même s'ils ont le potentiel, à ce stade-là, sont complètement irréels.
Et en fait, c'est un peu le on va dire, l'attractivité de nos sports qui veut ça, c'est-à-dire que c'est un sport populaire, tout le monde peut se juger. Tout le monde peut voir un peu où il en est, il suffit de mettre une paire de baskets et d'aller courir. Finalement, c'est le sport le plus abordable pour ça. Or, on oublie sûrement un peu que c'est aussi un entraînement et peut-être une façon de courir aussi. C'est quand même le seul sport au monde, quasiment, où tu n'as pas de leçon de course, où tu n'as pas de cours de course. Tu vois, tu veux jouer au tennis, tu payes très cher les cours de tennis, tu veux jouer au golf, tu veux jouer au foot, peu importe, tu as des entraînements pour ça. La course à pied, bon, je vais acheter une paire de baskets, d'ailleurs, je ne sais pas trop laquelle. puis je vais courir, et puis tiens, il y a un pote qui m'a branché hier à l'apéro, je vais faire mon marathon en 3 mois. Voilà, c'est un peu le schéma de gens qui se mettent comme ça rapidement à la course à pied. Ben, ils peuvent. Après, la question, c'est comment on s'y prépare, qu'est-ce que ça va donner, quel est l'objectif, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette facilité-là, puis c'est aussi le seul sport où tu peux courir avec des élites à côté de toi sur la ligne de départ, quoi.
Ouais.
Tu peux être ultra trail du Mont Blanc à côté d'un Kylian Jornet, alors même si tu seras peut-être une dizaine de mètres derrière.
Un petit peu plus loin derrière, ouais.
Pour, en tout cas, encore plus à l'arrivée, mais par le jeu des sas, t'es pas juste à côté, mais en tout cas, tu vas faire la même course que lui, le même jour. Au même moment, tu vas écouter la même musique de départ. Donc, c'est le sport qu'on pratique qui veut ça aussi. Qui fait qu'il y a un engouement, et puis il y a une facilité, une accessibilité qui fait que bah, tu te jettes un peu dessus. Après, voilà, je pense que moi, c'est le genre de sport où je ne suis pas en train de dire qu'il faut être ultra prudent, parce qu'au contraire, allez-y courir, il faut courir, il faut se dépenser pour faire du sport. Mais quand on se met des objectifs, un marathon, c'est pas rien, comme on ne se fait pas demain un UTMB comme ça sans aucune préparation.
Bah, d'ailleurs, moi, je l'ai déjà fait, ça, pour le départ, de partir en même temps que tout le monde, et d'arriver littéralement 2 fois plus longtemps après que le premier. Je l'ai fait sur une course. J'étais quand même assez content d'y arriver, mais pour le coup, ouais, tu vois, moi qui suis amateur, d'être sur une course assez haut niveau, le mec, je sais même plus quel était le temps du premier, mais je crois que lui, il a fait 18 heures, et moi, j'ai fait le double de ça, quoi. Tu vois, donc,
rien que ça, c'est... Finalement, c'est quand même assez gratifiant de se dire déjà que tu as fait le même parcours,
ouais.
Tu as eu la chance de faire la même chose. Après, tu te compares ou pas, mais à la limite, le temps, c'est un indicateur. Mais moi, je trouve ça assez génial de pouvoir dire tiens, bah, moi, j'ai fait exactement la même course que lui, dans exactement les mêmes conditions, à peu près, parce que les méthodes ont un peu changé.
Ouais, bon, d'accord. Ça
s'est animé un peu. Mais en tout cas, tu as fait la même chose. Donc, finalement, le vrai héros, souvent, en tout cas, moi, je trouve dans un marathon, dans un ultra-trail, c'est pas celui qui va le faire en 2h10, c'est pas celui qui va le gagner en moins de 20h à l'UTMB ou en 20h à l'UTMB, mais c'est plutôt celui qui va le faire le double de temps. Parce que lui, il met 2 fois plus de temps à courir. Le mec, il met un marathon en 5h, mais pour moi, c'est un vrai héros parce que déjà, il faut courir 5h sur du bitume. Physiquement, il est sûrement ultra dégradé plus que toi en 2h30 ou en 2h20. Il a sûrement pas l'habitude, peut-être qu'il a pas la préparation non plus physique ni mentale, etc. Donc le mec qui fait ce temps-là, pour moi, quand tu vas à l'arrivée d'un marathon, c'est ces mecs-là les vrais héros. Les premiers, on est entraîné, on est préparé, finalement c'est plus facile.
C'est ça.
C'est lui qui se met les 5 heures ou qui se fait du TMB en double de temps, mentalement il est costaud, hein.
Mais c'est en plus c'est compliqué ces trucs-là parce que d'un côté tu pourrais dire c'est impressionnant que des gens puissent faire ça avec finalement pas assez d'entraînement, parce que c'est un peu ça aussi qu'on pourrait dire. Ils sont pas, c'est peut-être pas le bon choix, je dirais plutôt, sans la condition physique nécessaire. Pour faire ça dans de bonnes conditions, parce que c'est sûr que 40 heures d'effort, c'est colossal. Ça te détruit, tu vois, t'es plus en train de te battre contre l'effort physique, t'es en train de te battre contre la fatigue en même temps, tes conditions mentales se dégradent, c'est 1000 fois plus dur quelque part. Mais est-ce que du coup c'est une bonne idée, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'on est encore en train de se faire du bien? Peut-être, je sais pas. Mais moi j'ai été dans cette situation. J'ai des courses en quasiment 40 heures, j'en ai fait. Et je sais pas si, avec le recul, je me dis, même si j'en ai des super bons souvenirs et je suis très ému à l'idée d'y repenser, tu vois. Enfin, je me dis putain, j'aimerais revivre des trucs comme ça. Je me rends compte que quand même, je me suis fait mal, tu vois. Enfin, je me suis abîmé en fait sur le coup. Donc, est-ce qu'on aurait dû me laisser partir? Bah, je sais pas. Je suis partagé en fait. Tu vois, j'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire peut-être pas en fait. Peut-être qu'on aurait dû être un peu plus sévère avec moi en termes de performance requise, hein, et on n'aurait pas dû me laisser le faire, tu vois. Parce que, à limite, si j'avais pu le faire en genre moins de 30 heures, ce qui n'a pas été le cas, là, je pense à une course en particulier, mais ça pourrait être autre chose. Si ce truc-là, on m'avait dit, genre, ok, faut que tu le fasses en 30 heures, sinon, c'est pas la peine, ça aurait peut-être été plus malin. Parce que, tu vois, bon, là, après, on parle de gros trucs, de grosses distances, mais c'est... je me dis, où est-ce qu'on met le curseur, tu vois, sur le... c'est une bonne idée d'y aller, comment est-ce qu'on évalue si t'es vraiment prêt, tu vois,
Tu touches un point important parce que, alors, encore plus dans, on va dire, dans le trail et l'ultra trail.
Ouais.
Attends, c'est encore différent.
Oui.
L'ultra trail, il y a, il y a ce grand écart entre la vraie performance qui va concerner une élite et qui finalement est vraiment peu de gens, et c'est une sas de départ assez restreint, et toute cette masse, entre guillemets, sans le côté péjoratif, de gens qui veulent faire ce parcours pour faire le parcours.
Oui, c'est le grand public.
Évidemment, il y a un enjeu un peu financier aussi, c'est-à-dire que plus on le rend accessible, plus le nombre de gens peuvent participer. Donc, ça, c'est quand même au départ quelque chose d'assez agréable de se dire que finalement, demain, quasiment presque tout le monde peut se lancer dans cette idée-là. Alors, l'UTMB est quand même assez encadré. Il faut des points, il faut.
Ouais, il y a tout un processus de qualification.
Il y a des processus de passage qui sont finalement ces validations-là. Hein. Ouais. Et après, c'est vrai que sur certaines courses où tu n'as pas tout ça, tu as des barrières horaires que parfois qui sont très, très, très larges. Et tu as justement un sport qui est entre la frontière entre le trail et qui a quand même une notion un petit peu de course. Ou presque de la rando, parce que sur les derniers, pardon, c'est quand même assez proche de la randonnée. Et quand tu vois l'état final dans lequel certains arrivent, c'est vrai que tu peux te demander est-ce qu'on se fait du bien à tous quand on fait ça? Est-ce que ces personnes-là vont avoir envie de revenir, ou est-ce que c'est un no-retour sur ça? Il y a cette question-là de essayer de trouver le bon curseur qui est pas évident. Et en même temps, tu as envie que tout le monde puisse faire cette course parce qu'elle est magnifique, etc.
C'est ça, t'as envie que ça soit ouvert, t'as envie que tout le monde puisse le vivre, mais en attendant, parfois, enfin, ouais, je te dis, moi j'ai dû être honnête avec moi-même, une course que j'ai faite où je me suis dit, mais enfin, en fait, j'étais pas prêt du tout. Je me suis pris une énorme claque dans ma tête, je me suis retrouvé à courir pendant 38 heures, enfin, tu vois, j'étais complètement déchiqueté, la course a eu lieu le week-end, et genre le mercredi d'après, je perdais le fourmillement dans mes pieds, tu vois. Je me suis abîmé, quoi, tu vois, enfin, vraiment. Après, c'est un de mes meilleurs souvenirs de course, malgré tout, tu vois.
Mais si c'est ce que tu en retiens, au final, ça veut dire que c'était quand même bien, tu vois. Ouais. Et après, c'est vrai que parfois, c'est un côté péjoratif. Si tu prends une course où on essaie de faire entrer le maximum de gens à l'intérieur de cette course-là, finalement, la répercussion que tu vas avoir, et là, c'est juste pour faire un petit aparté, c'est que finalement, tu vas devoir avancer au plus tôt possible le départ de la course, pour que les maximum de gens qui puissent rentrer dans une barrière horaire, en tout cas dans une zone de sécurité. Du coup, et après, il y a aussi des effets un petit peu pervers, ce qui fait qu'il y a certaines courses qui partent à 3 heures du mat, c'est pas pour juste une notion de distance, c'est pour être sûr que la personne qui va le mettre avec peut-être 5 fois le temps du premier puisse rentrer dans un terme qui soit en termes de sécurité acceptable pour l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est vrai que ça chamboule même par devant cet accès à la masse, à l'ensemble de la masse, le sport. Mais finalement... L'essentiel, c'est qu'on y trouve du plaisir.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr. C'est, de toute façon, c'est rare que dans ces... C'est quand même relativement rare qu'il y ait des incidents vraiment graves, des petites blessures. Ça, ça arrive un peu dans tous les sens, mais des incidents vraiment graves, c'est rare. Après, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, parce qu'en l'occurrence, la course dont on se parlait, l'année suivante, il y a quelqu'un qui s'est fait foudroyer. Donc, bon, voilà, il y a quand même des risques. mais bon, bref. C'est ça, le sujet. Ouais, malheureusement. Mais donc du coup, ouais, enfin, c'est sûr que après l'ultra trail, c'est quelque chose de très particulier. Les courses à distance plus réduite, là, bon, on a peut-être moins ce débat-là. Il y a, c'est juste que bon, voilà, t'as quand même des prérequis de performance. Ce sujet mis à part, en tout cas, moi, ce dont je voulais qu'on parle un petit peu aujourd'hui, c'est comment, en fait, toi, du coup, tu t'es retrouvé à gérer cet entraînement, parce que voilà, tu bossais à plein temps, donc avec Altra à l'époque, quand t'as vraiment commencé à te remettre dans la compète. Et du coup, ça a été donc concilier un taf à plein temps avec un entraînement quand même pour... Enfin, juste pour situer, hein, le Festival des Templiers, c'est quand même, pour ceux qui connaissent pas, c'est une assez grosse course. Donc du coup, ça attire quand même des gens d'un certain niveau. Je connais pas le parcours de la Mona Lisa spécifiquement, mais bon voilà, ça reste un festival de trail assez compétitif. Hein, donc pour pouvoir signer une troisième place, tu devais quand même être plutôt en forme. Donc j'imagine que comment est-ce que t'as pu, enfin pour concilier en fait un travail à plein temps avec ce genre d'entraînement, t'as dû quand même faire certaines concessions, non?
Alors oui, il y a des concessions, ça c'est sûr. Pour l'anecdote de la Mona Lisa, je récupère le dossard la semaine précédente, c'était pas du tout prévu. Et c'est juste que au final, ce sont quand même des courses. La Mona Lisa, c'est 27, c'est, en tout cas, c'est moins de 30 km, donc il ne nécessite pas forcément la même intensité, l'intensité si, mais en tout cas pas le même kilométrage par semaine, pas la même sortie longue, pas les week-end chocs, etc., etc. Donc ils sont peut-être les plus accessibles, mais c'est des courses de vitesse, hein. 40 km perdu sur un trail, c'est des courses dites rapides. Alors c'est vrai que la vulgarisation du trail aujourd'hui te donne l'impression qu'un trail qui fait moins de 100 bornes, c'est pas vraiment un trail, quoi, c'est une petite course, etc. Faut oublier quand même que pour la plupart des gens, et aller courir 30 km, 40 km, c'est déjà significatif. Pour revenir à ta question, en travaillant, effectivement, tu dois t'adapter. Alors, comme tout le monde, hein, tu trouves des solutions. Moi, je me déplaçais, par exemple, beaucoup avec Altra. Donc, la solution, c'était de se dire, quand je suis en déplacement à l'étranger, peu importe, tu es à l'hôtel, donc finalement, tu es seul déjà. Tu n'as pas ta vie familiale, tu n'as pas tes enfants avec toi. Donc, c'est des moments où tu te dois d'aller t'entraîner à ce moment-là et d'en profiter pour en faire un petit peu plus. Les déplacements, c'est systématique le soir, le matin, on y va et on permet parfois de doubler dans la journée parce qu'on a du temps pour ça. Ça permet aussi une bonne technique, c'est dans les décalages horaires de se remettre un petit peu d'aplomb, d'aller courir, de se remettre au sport. C'est un truc qui marche plutôt bien quand tu as un décalage horaire et que tu te retrouves aux États-Unis. Ben, souvent, tu n'as pas sommeil, ce genre de choses. Bon, ben, tu vas courir. C'est une super façon de remettre son organisme un petit peu à l'endroit. Et puis après, comment tu concilies? Moi, à l'époque, par exemple, je travaillais en dehors de Paris. Je vivais dans Paris et je travaillais en dehors de Paris. Donc, il m'arrivait parfois de laisser ma voiture à mi-chemin, de rentrer en courant et d'y retourner le lendemain matin. Ça permettait de faire un petit bloc sur peu d'heures et de mettre un petit peu plus de kilométrage. Et puis, le week-end, d'en profiter un peu plus, tout simplement. Après, je crois que c'est finalement le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire que d'abord, il y a plein de raisons pour qu'on court. Et je trouve que c'est un débat un peu important. C'est est-ce que tu cours pour préparer quelque chose? Est-ce que tu cours pour juste le plaisir? Est-ce que tu cours pour perdre du poids? Est-ce que tu cours pour ta santé mentale, etc.? Et une fois qu'on a ça en tête, finalement, derrière, tout va se mettre en place assez facilement. Moi, je m'étais dit, je me rends compte que je ne suis pas complètement largué en termes de performance. Par contre, j'ai quand même la pression du temps. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il me reste que 50 performances, entre guillemets, donc il fallait pas que je perde de temps. Donc moi, ma motivation était simple, elle était de dire que j'ai pas du tout de temps à perdre et que là, il fallait que je m'entraîne vraiment sérieusement pour voir ce que ça peut donner, pour juste pas avoir de regrets avec ça.
Ouais.
Donc, quand tu as ça en tête, finalement, tu trouves les moments pour aller courir. Après, j'ai eu plus de disponibilité aussi par la suite qui m'a permis là de vraiment avoir un entraînement plus poussé sur des horaires appropriés en y allant le matin sur des horaires un petit peu plus fixes, etc., qui là permet vraiment, il faut être honnête, une certaine bascule en termes de performance parce que dans l'entraînement, il y a tout le visible que tu connais par cœur, qui est la séance, le plan, etc. Et puis, il y a tout l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est le repos, c'est l'alimentation, c'est tout ce genre de choses. Alors, effectivement, quand tu voyages sans arrêt, et ce qui était le cas, moi, au début, ben, tu as de la fatigue qui s'accumule et celle-ci, elle n'aide pas à la performance. Ouais. Donc, après, moi, j'ai adapté mon emploi du temps pour pouvoir m'entraîner un peu plus sérieusement encore avec des objectifs, avec du coaching aussi, puisqu'au démarrage, je faisais moi-même mon propre plan, entre guillemets, mais plus par opportunité de course en me disant, tiens, je ferai ça, ça, ça. Ouais. Et puis, à un moment donné, dans cette urgence de temps, entre guillemets, qui me restait dans ma tête, et je me suis dit, bon, là, maintenant, il va falloir essayer de construire les choses un peu plus habilement, donc je me suis accompagné, j'ai pris un coach, c'est Vincent Biette qui s'occupait de moi, donc pour essayer de vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour voir ce que ça pouvait donner.
Justement, ça m'intéresse de revenir un petit peu sur cette partie où tu voyageais pas mal pour le boulot, et c'est vrai que autant ça t'a peut-être facilité de trouver les séances, de trouver ton temps de séance d'entraînement, mais c'est effectivement sur, comme tu dis, surtout cet entraînement passif, qui je considère, enfin après ça c'est une vision personnelle du truc, moi je considère ça limite presque plus important, c'est-à-dire que t'as besoin de l'entraînement actif, hein, mais en fait ce que tu vas faire en passif va presque avoir plus d'impact, je trouve, enfin va être beaucoup plus déterminant, c'est un peu comme une sorte de facteur multiplicateur de l'entraînement actif, c'est-à-dire qu'effectivement si tu bouges pas bah il va rien se passer, mais parfois il va y avoir des périodes où tu vas bosser beaucoup moins en fait, en termes d'entraînement actif, donc tu vas peut-être moins courir si ton sport c'est la course à pied, mais à côté, parce que l'entraînement passif, lui, est au top, bah, tu vas quand même voir ta performance augmenter. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais du coup, je serais assez curieux de savoir ce que tu faisais du coup à cette époque-là, et ensuite on parlera peut-être de comment ça a évolué, mais comment tu faisais à cette époque-là, justement, pour gérer en fait cette situation passive, sachant que bah, toute personne qui a régulièrement voyagé pour le boulot aura connu ça. Je veux dire, manger à l'aéroport et à l'hôtel, en général, c'est pas si simple que ça.
Tu touches un point qui a un petit peu aussi évolué en fait dans, dans ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, en me déplaçant beaucoup, moi j'avais un vrai problème d'abord qui était lié à l'alimentation, d'abord, tout simplement. Le sommeil, la fatigue, on en reparlera après. Je pense qu'il y a d'autres façons de pouvoir le gérer. Moi, j'avais un problème lié à l'alimentation. Trop souvent, tu trouves un mauvais sandwich qui traîne ou un truc pas très bon ou pas très frais, etc., etc. Et moi, ça m'a posé un vrai problème dans l'alimentation. Pas en termes de performance, parce que j'avais pas le recul pour me dire ça m'apporte pas ce que j'ai besoin et j'étais pas du tout à me peser mon repas ni à savoir ce que j'avais mangé comme graines. Ouais. Mais par contre, ça m'a posé plus un problème de me dire ok. Donc la nourriture pour moi ça doit être un truc un peu important. Or ce que je mange, j'ai l'impression que le poulet qui est dedans c'est un poulet qui a jamais vu la nature, que ce qu'il y a dans mon jambon il a pas l'air d'être vraiment du jambon, etc. Et progressivement déjà sur la nourriture, moi j'ai commencé à me dire ok bah je vais plus manger de ce type de viande. Donc j'ai écarté ça parce que je me dis si c'est pour mal manger ça m'apportera pas ce que j'ai vraiment besoin. Donc j'ai écarté ce type de viande. Et puis petit à petit, en me rendant compte qu'en fait, en termes de performance, d'entraînement ou même de ressenti physique, moi, je me sentais mieux. Je ne dis pas que c'est un truc qu'il faut faire, c'était en tout cas mon ressenti. Ce petit changement que j'avais mis dans mon alimentation, j'avais des répercussions que je trouvais intéressantes. Après un repas où j'avais vraiment choisi ce que je voulais manger dedans, je me trouvais un petit peu mieux. Donc petit à petit, moi, j'ai arrêté la viande. Donc ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je ne mange plus de viande, par exemple. Mais juste parce qu'au départ, mon constat était de me dire qu'en déplacement, la qualité de ce qu'on me donnait, m'apportait rien en fait. Je mangeais un truc qui ne m'apportait rien en termes d'énergie, on va dire. Donc, déjà, ça, j'ai décidé d'éliminer. Ça s'est fait naturellement, hein. C'est pas du tout une contrainte. Je n'ai pas souffert. C'était un truc qui est venu, qui s'est imposé à moi naturellement. Donc, ça, c'était le premier point sur l'alimentation. Après, j'ai remarqué des choses. C'est qu'en m'entraînant, par exemple, le matin, moi, j'ai un coup de barre incroyable après le repas du midi. Ouais. C'est une période dans le travail, le 14-15 heures. C'est une période pour tout le monde, hein. C'est la période où tu vois tout le monde est derrière son ordinateur en train de se planquer un petit peu parce que on commence un peu à descendre. Moi, c'était un moment vraiment difficile parce que entre l'entraînement du matin, peut-être une alimentation trop rapide le midi, j'avais un vrai coup de barre. Donc là aussi, j'ai changé 2-3 petits trucs dans mon alimentation. Le fait de manger uniquement des repas froids, moi le midi, me convient mieux. Par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais mon corps réagit comme ça et je mange plus de choses chaudes le midi, uniquement de l'alimentation et ça m'a permis de rester sur une courbe d'énergie. Qui à la fois me permettait d'être correct dans mon entraînement et dans ma journée de tous les jours, ne pas être avachi, ne pas montrer une perte d'énergie dans mon travail. Après, l'autre chose, quand on se déplace, et ça c'est pour tout le monde, c'est la compétition, c'est l'hydratation par exemple, c'est un truc tout bête, mais on n'en parle jamais assez. L'hydratation, c'est un truc hyper important. On dit tous qu'il faut boire peut-être 1,5 litre, certains 2 litres, certains te disent jusqu'à 3 litres. Bon, finalement, peut-être qu'on ne sait pas vraiment où est le curseur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'hydrater. Ce qu'on oublie souvent dans ce calcul-là, c'est qu'en plus, il faut que tu rajoutes la perte hydrique liée à ton entraînement aussi. Donc, si tu as perdu déjà 1 litre d'eau et que tu dois normalement boire 1,5, bah, faut peut-être que tu en boives 2,5, tu vois. Donc, sans arrêt se balader avec la bouteille d'eau ou une gourde ou un truc comme ça qui permet d'avoir juste le réflexe des pensées et de boire. Encore plus vrai en avion. En avion, tu te déshydrates, on le sait tous. Moi j'utilisais beaucoup aussi des bas de contention dans la récupération, qu'elle soit pas forcément une récupération liée à un post-entraînement mais plus en fait là j'ai 8 heures d'avion, bon bah, je vais mettre mes bas, j'utilise des bas compressoirs par exemple, ça me permet d'avoir des mollets moins lourds en arrivant, j'en profite pour me lever beaucoup aussi au maximum dans un avion, un train ou ce genre de choses, peu importe, le but de rester le moins longtemps assis.
Ça permet... D'ailleurs, sur une petite note là-dessus, pour avoir essayé du coup les bas de compression en avion, pour moi, ça a eu plus l'effet de me faire penser au fait qu'il fallait que je bouge. Et donc, du coup, ça m'a juste fait plus bouger. Et rien que ça, je suis absolument pas... j'y connais rien, tu vois. Je sais pas si c'est efficace ou quoi. Mais le simple fait de les avoir portés, ça m'a fait bouger. Et ça, on sait pour le coup que ça va être bénéfique. Et donc, rien que ça, pour moi, ça vaut le coup. Donc, ça m'a fait penser à bouger. Et du coup, j'ai bougé. Et du coup, je me sentais mieux. J'étais bien, bien plus à l'aise, quoi.
C'est ça, en fait. À la limite, peu importe l'effet psychologique, c'est presque le plus important. Tu crois pas à ce que ça va t'apporter. C'est un médicament, entre placebo. Tu sais pas, c'est pas grave. En tout cas, le côté psychologique qui te fasse penser ou qui pense que tu vas aller mieux grâce à, déjà, t'as déjà fait peut-être une part du chemin. Donc, Ce qui est assez intéressant, après, dans le, évidemment, je passe le, c'est de se coucher tôt, quand tu es en déplacement, c'est pas toujours évident, quand tu es avec des clients, d'autres équipes qui sont autour de toi, c'est pas évident non plus, mais le sommeil, bah, je l'ai appris par la suite, hein, en fait, hein. C'est pour ça que quand je dis que je me considère assez jeune, c'est que, bah, peut-être que pendant très longtemps, j'ai pas fait assez attention à ça, et aujourd'hui, je me rends compte que, ouais, l'entraînement du lendemain, c'est pas le même que si t'es couché à 10 heures, ou si tu te couches à minuit, à regarder des séries toute la nuit. Donc, cette notion aussi d'entraînement, comme tu dis, qu'on appelle souvent invisible, hein, aujourd'hui, en tout cas, moi, à mon âge, c'est un truc que je dois prendre encore plus en compte, quoi.
Bah c'est une grosse composante. D'ailleurs, le simple fait d'être à l'écoute de ça, en fait, devient du coup vachement plus important parce que tu vas vachement voir, enfin, tu vas beaucoup plus sentir, en fait, tes erreurs, comme par rapport à quand tu étais plus jeune. Parce qu'en gros, voilà, t'as peut-être un peu moins de marge de manœuvre, en fait, surtout, je pense,
Mais
si tu puisses
c'est
te permettre, quoi.
exactement ça. C'est-à-dire que si jamais tu l'oublies toi, ton corps va te le rappeler. Peu importe comment, mais à sa manière. Tu vas te lever le matin, tu vas dire, ouais, je me sens raide aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vas réfléchir, tu te dis même, en fait, j'ai pas bu la journée après ma sortie ou un truc comme ça. Donc ton corps, il va te le rappeler tout de suite. Et je suis pas en train de dire qu'on est foutu, hein, mais je dis juste que effectivement, à un âge où en fait rien n'est important parce que ton corps te permet de récupérer beaucoup plus vite, etc. En tout cas, te donne l'illusion que rien n'est important. Peut-être que c'est après que ça se paye. Ben, un âge un peu plus avancé, effectivement, tout de suite, tu le remarques. Et ça peut être des détails, hein. T'es raide, peut-être qu'il va te falloir 2 km de plus pour t'échauffer, etc. Tout un tas de choses qui fait que si tu fais pas attention à l'accumulation de ces détails-là, ben, tu pars d'un petit peu plus loin, toi, dans ton entraînement ou dans ta compétition.
Je te rejoins là-dessus, parce que tu vois, moi j'ai commencé la course à pied tard, je sais plus quel âge exactement, mais vers mes 25 ans. Donc ça fait, voilà, ça fait en gros une dizaine d'années que je pratique. Et je sais que quand j'ai démarré, du coup, bah, voilà, au milieu de ma vingtaine, n'importe quelle séance, en fait, je partais de l'arrêt, je partais à ma vitesse de croisière, quoi. Peu importe le jour, peu importe combien de fois j'avais couru dans la semaine, enfin, ça n'a en gros aucune incidence. Et quand je me faisais mal à cet âge-là, j'arrivais à un point de cassure, c'est-à-dire qu'en gros tout allait bien, tout d'un coup, plaf, ça classe, tu vois. Alors que maintenant, je vois, donc 10 ans plus tard, je peux anticiper une blessure de surentraînement, par exemple, enfin, vraiment un truc d'abus comme ça. Je peux sûrement anticiper à 3 4 jours facile. Je sais tout de suite. C'est dès le premier signe, des premiers signes de fatigue, je les identifie immédiatement parce qu'en fait, je sais pas si on les sent plus ou c'est juste qu'on est moins, enfin, on est plus proche de notre limite. Je saurais pas le dire comment, mais enfin, moi, j'ai bien vu la différence. Hein. Du coup, enfin, d'adapter, tu sais, tout le temps ton entraînement, tu vois, de dire ah, j'ai fait un peu beaucoup, je lève le pied, tu vois.
Mais on va dire que on va appeler ça l'expérience, ça nous arrange.
Ouais, voilà.
Parce que c'est vrai que c'est pas toujours qu'une notion d'âge aussi, hein. Il y a aussi l'expérience, peut-être l'habitude de certaines choses,
Oh
t'as
oui, je suis
des
sûr.
notions de l'air. Le plus dur, en fait, c'est comment tu quantifies. C'est juste ça la question, c'est comment tu quantifies ton état de forme actuel. Alors il y a des outils qui sont différents selon les personnes. Est-ce que c'est du rythme cardiaque? Est-ce que ça peut être pour certains, est-ce qu'on tient une allure demandée? Ça peut être, est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que j'ai mal quelque part quand je me lève? Peu importe, il y a plein de facteurs. Chacun faut trouver le bon, parce que c'est pas évident, ça parle pas à tout le monde. Tout le monde ne travaille pas ses sens en rythme cardiaque, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut essayer de capter le petit moment où tu te dis que tu es peut-être un petit peu au-dessus. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir se faire mal quand on s'entraîne, etc. Hein. La surcompensation qui marche bien pour ça, mais c'est de se dire, attention, de quand même un peu être à l'écoute de son corps par 2, 3 signaux. Il y a un truc que moi personnellement marche bien, c'est la perte d'attention. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais la perte d'attention, ça peut être, tu vas buter dans un trottoir, tu vas courir et puis t'as pas fait gaffe qu'en traversant, en fait, c'était pas à toi de traverser. Enfin, tu vois, tu sens que tu es dans des états un peu comme ça.
T'es moins attentif, hein.
Et la perte d'attention, elle peut être aussi dans le côté irritable. Tu vois, tu te sens un peu plus irritable, irrité, tu perds l'attention, tu passes vite à autre chose, etc. Tu vois, tout ça, c'est aussi des choses à prendre en compte aussi, donc, qui permettent de juger ton niveau de fatigue
Ouais.
et après l'adapter, quoi.
Et du coup, donc là, t'as un peu appris, donc avec les années, à mieux gérer ça. Ta situation pro, elle a changé un peu à côté.
Ouais.
Ouais, donc
Ouais.
parce que t'es devenu ensuite coureur élite pour Altra, c'est ça?
En gros, le parcours professionnel avec Altra fait que ça s'arrête. À ce moment-là, moi, j'en profite pour me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je profite pas de la période que j'avais devant moi? En gros, j'avais au moins un an de me dire qu'est-ce que je fais de cette année-là. J'arrête avec Altra pour des raisons professionnelles. Le groupe est racheté, je ne peux pas changer de pays où on me demande d'aller, etc.
Ouais,
donc j'arrête le côté pro à ce moment-là. Mais sauf que comme c'est le moment aussi où les performances étaient là, Altra me rattrape en me disant on voudrait bien te proposer aussi un contrat élite. Il se trouve que j'étais aussi ambassadeur d'autres marques à côté. Et donc là, je me dis, OK, je profite de cette période de vie pour me lancer vraiment dans l'entraînement. Donc c'est là où je passe moi à la phase plutôt 2, plus sérieuse, qui est de se dire... Donc, je vais essayer de m'entraîner presque comme un pro, sans avoir cette prétention-là, mais en tout cas, en y accordant toute l'importance sur au moins un an. Et donc, là, pendant un an, je prends un coach, donc c'est Vincent qui me coach, et on établit des objectifs. Tu vois, on rentre vraiment dans ce qui peut paraître logique pour tout le monde, mais ce qui, pour moi, jusqu'à là, n'était pas. Moi, je courais, puis je trouvais que je faisais des performances, puis de toute façon, j'avais tellement de boulot à côté que... Si ça marchait, tant mieux. Si ça marchait pas, c'est pas grave. C'était pas devenu l'objectif. Donc là, c'était transformé en devenant un objectif. C'est qu'est-ce qu'on arrive à faire pendant un an si on s'y met sérieusement.
Ouais.
Donc, je suis passé de peut-être 4 entraînements par semaine à d'un seul coup plus. Donc en m'entraînant tous les jours, évidemment, et en doublant certaines journées, en croisant parfois le sport pour faire un peu de vélo, etc. Donc là aussi, quand on parle de progressivité, il a fallu avec le coach essayer de voir si le corps était capable de passer de cette phase où tu t'entraînes peut-être 4 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais bon, quelques 4 fois par semaine, à une phase où tu vas presque doubler en termes d'entraînement, en termes de charge kilométrique aussi, en termes d'heures passées. Et donc, à ce moment-là, quand on parle tout à l'heure de curseur, il faut être vigilant, quoi, parce que quand on va trop vite, trop fort, trop longtemps, bah, il y a peut-être un moment où ça peut exploser en route, quoi. Donc, on a un peu appris sur le tas, et finalement... je touche du bois, mais tout s'est très bien passé. Il n'y a pas de blessure liée à ça, parce que je pense qu'on avait réussi à trouver le bon curseur, à ce qui allait, ce qui ne m'allait pas, en ayant un petit peu aussi de passer dans le monde du sport et en étant très sensible aussi à la pose de pied, à la technique de course, etc. Ça permet peut-être aussi de se préserver un peu plus. En tout cas, pour moi, ça fonctionne, de se dire, attention, il faut savoir aussi comment tu cours. Et ça a permis de doubler le kilométrage, de doubler les heures passées.
Tu peux nous donner un petit peu un ordre de grandeur? C'est-à-dire que sur cette année, justement, déjà, si tu devais nous donner en gros tes durées d'entraînement en moyenne un peu avant, juste on se rend compte de la différence entre ce que quelqu'un qui arrivait à déjà être compétitif en gérant une vie pro versus quelqu'un qui ensuite a eu du coup beaucoup plus de temps à donner. En gros, t'es passé de quoi à quoi à peu près? En termes de volume d'entraînement, on va dire en heures peut-être ou même en kilomètres, je sais pas, ce qui est pertinent.
Ouais. Pour donner un ordre d'idée, quand je bossais vraiment de façon intensive, quand j'arrivais à faire 4 entraînements semaine, je trouvais que c'était bien. 4 entraînements semaine, ça voulait dire que, grosso modo, j'en faisais 2 à 3 dans vraiment la semaine travaillée, le lundi, vendredi. Et puis, j'essayais d'en placer un autre dans le week-end parce que j'ai aussi 2 enfants en bas âge et il fallait trouver un peu un équilibre. Pas le plus simple. Je suis passé donc de 4 entraînements semaine à 7, voire sur des semaines. Tu travailles vraiment plus le volume à monter jusqu'à 10 avec des entraînements croisés parfois sur du vélo.
Ouais.
Donc aujourd'hui, une semaine type pour essayer de donner un truc qui parle un peu à tout le monde, on va dire dans une préparation marathon, parce que je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde. Je ne fais pas d'ultra trail, hein, donc c'est vraiment spécifique sur une préparation marathon. Je suis à entre 105 km sur une petite semaine à 150 semaines. Donc, pour vulgariser le truc, c'est 105, c'est 15 bandes par jour, en gros. Et en termes d'heures passées, on va dire qu'il faut compter 2 heures. Tu comptes 2 heures de ta journée minimum à ton entraînement. Même si ta sortie va te prendre qu'une heure, entre, en gros, la préparation qui va aller un peu avant et le retour au calme, les étirements éventuellement, ce genre de choses, ou un peu de gainage, parce que je fais pas du tout assez. Tout ce genre de choses, il faut quand même compter minimum 2 heures de ta journée, de ta matinée, en tout cas, sur cette préparation-là. Et puis, sur les semaines dites de pic, où tu vas vraiment aller chercher un maximum de volume, là, tu peux monter jusqu'à 150 km, qui peuvent être répartis différemment. C'est-à-dire que tu vas avoir des sorties vraiment longues, qui peuvent être entre 30 à 38 km en approche du marathon. Et donc, tu vas. Ça ne veut pas dire que tu vas courir plus tous les jours, mais ça veut dire que tu vas augmenter ton kilométrage semaine. Et ça, couplé à un truc qui était nouveau pour moi, qui est faire du vélo. C'est un truc que je faisais jamais. qui marche bien, je trouve, moi, surtout quand tu dois travailler tes cuisses, ce qui était, moi, mon gros problème. Quand tu vis à Paris, pour faire du trail, c'est quand même pas simple de t'entraîner tous les jours. Et je pense qu'on n'a pas qu'à avoir ce problème-là. On n'a pas l'occasion d'aller forcément tous les jours dans les Alpes, ni tous les week-ends. Donc, il faut aller trouver des petits trucs pour pouvoir aussi musculairement retrouver un truc qui est le plus proche du trail. Donc, au-delà des sorties, des séances de côte et d'envoyer du kilométrage, le vélo est quand même un truc qui fonctionne plutôt bien et qui a le double avantage de ou être une récupération active après une grosse séance. On parle de la récupération, justement, bah, aller faire une sortie de vélo de 2 heures, cool. Et ben, c'est déjà préparer l'entraînement du lendemain. Ça te permet d'encaisser le premier et de préparer le suivant. Donc, c'est un truc que j'ai découvert, moi, et qui marche plutôt bien.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Déjà parce que je trouve qu'il y a un truc intéressant avec le vélo, c'est que donc t'es pas forcément obligé de le pratiquer à haute intensité, surtout si ton sport principal de toute manière c'est la course à pied. Mais effectivement, tu vas travailler des muscles que tu auras du mal à travailler en temps normal. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui est dans une région comme l'Île-de-France où justement t'as beaucoup moins de dénivelé. Même s'il y a des parcours en fait qui te permettent d'avoir pas mal de dénivelé, tu pourras jamais reproduire une situation de montagne où tu vas avoir une montée sur, ça va monter à 25% pendant 15 km. Ça n'existe pas en fait en Île-de-France. Donc, et pareil pour les descentes, c'est-à-dire que quand tu vas faire du dénivelé en Île-de-France, en fait, tu fais des allers-retours en général. Tu vois, tu vas souvent te retrouver en fait à monter-descendre, et ta montée, elle fait 200 mètres, quoi. Tu vois, ta montée, elle fait 200 mètres, ta descente, elle fait 200 mètres, et même si t'es dans un parcours où tu les enchaînes, et que sur ta sortie, effectivement, t'as fait plein de dénivelé, bah, c'est pas comparable, en fait, à cet effort continu que tu devras fournir sur une course de montagne.
Ouais.
Donc, le vélo reproduit ça.
Et cette difficulté-là, c'est sûrement le plus compliqué à pallier, à trouver comment on pourrait quand même s'entraîner en ville et d'essayer de reproduire un effort de trail, de petit trail. C'est franchement, moi, je trouve ça le plus compliqué dans cette partie-là de l'entraînement. Faire le hamster sur des montées, on peut le faire, mais on perd quand même un côté aussi ludique et qui nous intéresse. Et quand tu travailles de la distance, tu dois quand même garder un truc qui te plaît dans ce que tu fais. Ouais. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, le vélo marche bien, le trail de côte. Et après, faut pas se mentir, il y a qu'en allant aussi sur le terrain que tu vas pouvoir retrouver toutes ces sensations-là. Tu parles de la montée, mais je pense que la descente, c'est peut-être le truc le pire encore.
Ouais.
Sur comment musculairement retrouver, quand tu vis dans une ville complètement plate, des sensations et des muscles sollicités qui sont de la descente. Moi, c'est clairement mon plus gros problème. Hein. Le trail, il y a que le terrain qui va t'amener à retrouver ces sensations-là.
Tout à fait. Et en plus, c'est vrai que la descente, bah, du coup, c'est, on parlait du psoas tout à l'heure. Le psoas, en fait, joue un rôle tellement important dans la descente parce qu'en fait, tu descends tout ton centre de gravité. Tu vois, enfin, tu dois vraiment contrôler du coup cette flexion du bassin. Donc, et ça, c'est un truc. Enfin, il est difficile de le reproduire. Déjà sur le vélo, c'est compliqué parce que le vélo, tu verrouilles vachement plus le psoas, donc il est pas sollicité de la même manière. T'as beaucoup de muscles dans le bassin en fait qui sont pas exploités. T'as d'autres qui le sont, du coup, mais d'autres pas du tout. Donc, tu vois, c'est bien pour certaines choses. Donc, typiquement, c'est top pour les cuisses. Mais après, c'est moins intéressant, par exemple, pour certains muscles du bassin, quoi. Donc, c'est sûr que tu retrouves pas ça. Après, est-ce qu'il y a un super sport complémentaire? On va dire peut-être la natation, allez. La natation, ça va aider à bien travailler. Après, est-ce que c'est l'idéal? Non, en fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est sûrement... Enfin, pour ce sport-là, en tout cas, c'est aller en situation.
Voilà. Et c'est le professeur Millet, Guillaume, qui a instauré justement ce week-end choc, entre guillemets, qui est le premier à avoir dit que si tu veux faire du trail, de la longue distance, etc., pour retrouver les conditions, il n'y a que accumuler beaucoup un peu de temps, en fait, et idéalement sur le terrain, parce que sinon, tu ne retrouveras pas ces conditions-là. Ce qui est moins vrai sur un marathon route. Un marathon route... tu dois borner, tu arriveras toujours à trouver un parcours qui sera un parcours à peu près proche du résultat, enfin, en tout cas du circuit final. Donc là c'est pas un problème. Le trail en est un.
Ouais, non, c'est sûr, c'est plus difficile. Bah, surtout qu'on a tendance à vivre dans des agglomérations, alors qu'ensuite on va concourir sur des environnements qui sont plutôt l'inverse de l'agglomération. Donc c'est vrai qu'on manque un peu ce genre de conditions. Mais. Ce que je voulais aussi dont enfin aborder aujourd'hui, c'était comment du coup cet entraînement que tu as dû mettre en place a dû s'adapter en fait à la situation qu'on vit aujourd'hui. Donc pour le contexte, si quelqu'un écoute ça dans 25 ans, nous sommes en 2020 c'est donc là actuellement donc en pleine crise du Covid-19. Donc il y a eu le confinement en France du coup plutôt cette année qui a été très strict. Là en ce moment en France il y a une deuxième vague. Toi là actuellement t'es à Barcelone, je sais plus quelle est la situation exacte là-bas, mais enfin globalement voilà, on est plus restreint dans nos capacités à s'entraîner. Mais surtout toi qui es compétiteur, tu vois la majorité de tes compétitions annulées, sachant que c'est quand même une grosse, enfin tout ton planning en fait tourne autour de ça. Comment est-ce que tu as dû t'adapter en fait cette année face à cette situation si nouvelle?
C'est une année qui est forcément particulière pour tout le monde. Donc je dis on, je parle de tous les sportifs qui mettent la compétition comme vraiment le point clé de leur saison
Bien
et de
sûr.
leur année. Il a fallu s'adapter. Donc d'abord, il y a la première phase qui est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et ça, c'est celle de Monsieur Tout le Monde, c'est toi, moi, nos copains, peu importe, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et le premier réflexe, c'est d'abord protecteur, c'est de se dire, bon, d'abord, on va essayer de se mettre en sécurité, d'ailleurs, premièrement. Et quand tu fais du sport à un certain niveau, tu sais que tu es aussi fragile. Faut pas croire que celui qui s'entraîne beaucoup, c'est celui qui risque rien parce qu'il est fort. Il est aussi fragilisé parce que justement, on en parlait tout à l'heure, il amène aussi son corps à un niveau où il peut être plus enclin à prendre des virus ou tout ce qui traîne un petit peu dans l'air. Donc la première phase, moi, ça a été d'abord de se dire, OK, on sécurise et on voit ce qui se passe et on essaie de comprendre combien il se passe. Je pense qu'on est tous passés par là. Moi, justement, je rentrais j'avais un avion pour aller faire le Speed Paris. Le Speed Paris est annulé. Première indication, donc tu te dis, bon, ça veut dire quoi? Combien de temps ça va durer, etc. Moi, je préparais à ce moment-là le marathon de Paris, qui était l'objectif du printemps. Je me dis, bon, ça sent quand même pas très bon. Si on annule le SMI, pour rappel, le SMI est un mois avant le marathon. Je ne vois pas comment un mois après, on va faire un marathon. Donc, je décide quand même de maintenir, entre guillemets, mon entraînement pour voir jusqu'où on va. J'avais un point de passage avec l'éco-trail, qui était un point de passage comme de préparation, on va dire, qui est annulé là aussi, qui est de nouveau. Bon, là, tu commences à te dire, ça marche pas, ça va pas marcher tout de suite pour ce printemps-là. Donc, moi, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a comme objectif à plus long terme? Donc, le premier point, ça a été de se dire, on encaisse un peu ça parce que tu te prépares des mois et des mois pour un événement qui finalement n'arrive pas. Donc déjà, il faut l'encaisser. Et tout de suite, essayer de te relancer en te disant, bon, c'est quoi l'objectif d'après? Moi, l'objectif d'après, il était placé au mois de juin, qui était basculé sur la saison de trail avec le marathon du Mont-Blanc. Ça me paraissait au début accessible parce que tu te dis, bon, on est en mars, on va peut-être être tranquille fin juin. Et puis très vite, tu te rends compte qu'en fait, bon, avec la situation globale, ce qui se passe, ça va pas être tenable. Ça va pas être tenable pour deux choses. La première, c'est que tu peux pas conserver ton entraînement comme tu voudrais, puisque tu es contraint par le temps. Tu n'as plus qu'une heure dans un périmètre. Enfin, voilà, ce qui est les contraintes de Monsieur Tout le Monde. Mais quand tu dois faire une sortie de 2 heures, bah, typiquement, ça marche pas. Donc, tout de suite, ça a été de te dire, bon, ça commence un peu à sentir mauvais. L'ITRA donc, a très bien réagi là-dessus. Donc, l'ITRA, c'est l'International Trail Association, je sais, qui permet de régir toutes les courses et de donner aussi des indices ITRA, etc., a décidé très tôt. Et je trouve que ça a été bien de dire, bon, on va geler, en fait, on va geler les indices. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec des écarts entre celui qui est en Afrique du Sud, qui peut peut-être encore s'entraîner.
Je vais peut-être l'expliquer ça. Justement, donc, ouais, la Fédération internationale de trail, donc l'ITRA, enfin fédération, c'est l'organisme en gros qui régit le trail. Les notions d'indice, en fait, c'est que on a, selon enfin les compétiteurs, en fait, ont un indice de performance, hein, donc qui du coup leur donne un classement, et ce classement du coup va définir bah, les élites versus les amateurs, par exemple, ou les gens en tout cas qui peuvent prétendre à un niveau national ou international. Donc voilà, ces indices en fait évoluent sur, je sais plus, sur une période glissante, sur les 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Sur la base des résultats qu'on a fait sur les compétitions. Donc en gros, cet indice, il est quand même assez important pour les compétiteurs, parce que ça va définir le placement qu'on va avoir sur des départs de course. Donc, par exemple, si sur une grosse course de trail, on voit quelqu'un avec le numéro 1, c'est que c'est la personne qui a le meilleur classement des présents. Donc, et celui qui a le numéro 3, c'est en troisième position et compagnie. Donc, ça va quand même, c'est important, là, cet indice-là, pour un compétiteur. Voilà, excuse-moi, je voulais juste mettre la petite
oui, place. Non, mais tu as raison de le préciser, c'est important pour l'élite, c'est important pour aussi le niveau juste en dessous, en fait, parce que les points ITRA donnent accès à des courses, en gros, te garantit les deux SAR, typiquement, ouais. Te garantit des accès à des courses, etc. Donc là, l'ITRA réagit très bien et se dit, bah, en fait, on va donner les mêmes chances à tout le monde. Ce qui était quand même l'interrogation de tous, hein, c'était de se dire, ok, mais si le marathon du Mont Blanc est conservé, si je suis en Amérique du Sud, qui pour l'instant n'était pas touché, j'ai une préparation idéale. Et si je suis en Europe, j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 mois ou quasiment pas.
Voilà, donc ils ont gelé ce truc pour mettre
en compte. Ils ont gelé l'indice et dire, on va quand même prendre en compte les courses pour ceux qui les font. On va prendre l'indice, on va le noter. Mais cette année, on va pas faire bouger votre niveau de performance et votre indice de performance, etc. Donc, vous aurez tous le même. Donc, en gros, déjà, là, il n'y a pas de gens qui vont être ou privilégiés ou même pour éviter le côté néfaste, c'est du truc et de dire, je veux quand même m'entraîner malgré le virus, je veux quand même outrepasser les règles qu'on nous donne parce que moi, j'ai des objectifs, etc. etc.
Ouais.
Donc, là-dessus, c'était très bien fait parce que ça a été encadré, ça permettait de dire, ok, pas d'urgence, les gars, allez vous entraîner n'importe comment, santé avant tout.
Ouais.
Donc, ça permet déjà de se détendre sur ça. Du coup, pour reprendre moi le point entraînement, pendant le premier confinement, l'idée a été de maintenir, toujours de l'entraînement tous les jours, dans ce qui nous était donné, dans ce qui nous était autorisé, mais en enlevant l'intensité. Puisqu'en gros, il n'y a plus d'objectifs à court terme, il n'y avait plus vraiment de sens de conserver un plan strict avec une montée en puissance, etc. Ouais. Donc, il était de dire, on va maintenir la condition de la machine, du corps, on va le maintenir comme on peut et on verra quand on pourra reprendre.
Ouais.
Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, c'était surtout dans la tête, c'est de se dire, en fait, moi, si je ne fais pas ça, je vais devenir fou, quoi. Je ne peux pas passer de 7 à 10 entraînements par semaine à plus rien. Mon corps ne va pas l'accepter, ma tête ne va pas l'accepter et mon entourage ne va pas l'accepter. Donc moi, l'idée, c'était aussi une santé, entre guillemets, mentale qui avait un besoin d'entretien de sport. Beaucoup travailler des choses que je n'avais pas du tout l'occasion de travailler le reste du temps, qui était justement tout ce qui va être renforcement musculaire, ce genre de choses. Bon, ça ne se voit pas, mais j'ai bossé aussi à distance avec un coach à distance.
Je te rassure, ça se voit, t'inquiète pas.
En tout cas, pas assez. Du coup, bosser ce genre de choses. Puis après, il y a eu, en gros, on a tous le droit de ressortir. Donc, on a essayé de remettre en place la suite de la saison. Et en fait, très vite, on s'est tous rendu compte qu'en vérité, la saison ne tiendrait pas, qu'il n'y aurait aucune course majeure qui pourrait être maintenue. Moi, j'avais, par exemple, programmé, j'ai eu un 100% de mes courses annulées, j'étais assez bon. Paris ne tenait pas, les semis de préparation, j'en parle même pas. Mon objectif de fin d'année était, du coup, le marathon de Valencia aussi, on a annulé très tôt, etc. Donc très vite, je me suis rendu compte que l'année allait être blanche en termes de compétition. Et là, la question, et là, je trouve que c'est le plus dur, et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que je fais une année blanche et du coup, en entraînement aussi ? C'est-à-dire que je relâche, je coupe tout. Et au 1er janvier, comme par hasard, tout ira mieux, alors je vais relancer la machine au 1er janvier.
Si seulement.
Si seulement, sauf qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est incapable de dire quoi est le nouveau début. Du coup, moi, j'ai juste pris le parti de me dire, bon, j'ai plus d'objectifs majeurs en termes de courses. On va essayer de se faire plaisir sur les petites courses locales qui existent encore et il faut les soutenir parce qu'ils font des efforts incroyables pour faire maintenir leurs courses. Donc, j'ai fait quelques courses, une dans les Pyrénées, une en Espagne, etc. Plus pour garder aussi bien un soutien par rapport à toutes ces courses que moi, mentalement, de me dire j'avais besoin de faire toujours de maintenir cette compétition. On n'a pas tous le même rapport à la compète, mais la compète, moi, je trouve que c'est un moment, en tout cas un point de passage qui permet de continuer à retourner t'entraîner avec toujours cet objectif en tête. Il y a un effet positif avant et un effet positif après, et ça, c'est bien de pouvoir le conserver. Après, aujourd'hui, deuxième contexte, donc même si moi je suis à Barcelone et aujourd'hui on a le droit encore de sortir et de continuer à s'entraîner, le plus dur aujourd'hui, c'est de se dire quand est-ce qu'on va retourner à un monde à peu près normal avec des courses, avec des compétitions le week-end. Là, aujourd'hui, c'est le plus dur. Donc, on est tous là à se dire c'est quand la prochaine. Donc, en termes d'entraînement, moi, j'ai décidé pareil de baisser de l'intensité, donc, mais de conserver du volume. C'est-à-dire que, grosso modo, pour schématiser, je garde entre 5 à 7 entraînements semaine, mais je ne vais plus monter autant en kilométrage. Donc, je suis plutôt à une moyenne autour des 100 km aujourd'hui, donc 15 bornes par jour, en gros, pour dire. Avec des semaines où je m'autorise à descendre plus ou des semaines où je m'autorise à monter un peu plus. Mais il n'y a pas l'objectif de kilométrage majeur. Et surtout, j'ai arrêté tout ce qui est lié vraiment à l'intensité. Pour deux raisons. Déjà, c'est parce qu'ici, on ne peut plus avoir accès aux pistes, par exemple. Donc, tout cet entraînement, même si tu peux le travailler autrement, aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre à côté, de le travailler en tout cas sur du plus court. Donc, au lieu de faire des répétitions sur des niveaux d'intensité très forts, aujourd'hui, j'en fais moins longtemps, pour faire simple. Et en gros, je maintiens l'organisme comme ça, en essayant de voir jusqu'où on va pouvoir aller et de repartir sur un entraînement plus fort par la suite. Ouais. C'est une période qui est idéale aussi, finalement, pour faire une coupure. Là, tout le monde, on arrive en fin de saison de trail, grosso modo, tout le monde est en train de faire une coupure. Donc là, pareil, s'il y a des gens qui cherchent à savoir quoi faire de cette période-là, bah, la bonne chose, c'est aussi peut-être tout simplement de couper. Et votre corps vous dira merci un peu plus tard de toute façon. C'est jamais négatif de couper. C'est parfois le plus dur de couper dans la tête parce qu'on culpabilise vachement finalement de ne plus aller courir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu lâcher ça et se dire ok, ben, profitons de cette période pour se reposer un peu plus, etc. Un petit conseil là-dessus sur le désentraînement, on va dire. Ça s'accompagne légèrement aussi. Enfin, tu dois le savoir aussi. En fonction de combien vous entraînez par semaine, etc., de passer de 5, 4, 3, 0, ce n'est pas forcément terrible non plus. Donc, il y a un accompagnement, on va dire, dégressif dans cette pratique-là. Pour deux raisons principales. La première, c'est d'abord psychologique, c'est-à-dire que même si vous ne faites plus qu'une sortie ou deux par semaine, au lieu des 4, 6 que vous faisiez avant, psychologiquement, vous êtes encore là, vous êtes encore présent, etc. Donc, ça reste agréable. Et la deuxième chose, c'est votre corps qui a l'habitude d'accumuler ou des kilomètres ou des calories et d'en conserver. Si vous arrêtez trop vite votre entraînement, et ben, votre corps qui, lui, a l'habitude de dire « Attends, demain, je sais que j'ai encore une séance, je vais accumuler plus de calories, je vais les stocker, etc. etc. » Et ben, c'est souvent une période où on peut prendre un peu plus de poids plus facilement ou alors d'un seul coup aussi voir apparaître des blessures qui n'était pas là pendant des périodes très intenses. Donc, je conseille un désentraînement plutôt qu'un arrêt complet. En tout cas, moi, ça marche mieux comme ça pour moi.
Ouais, et puis, mais j'aime bien ce que tu as dit sur le fait de réduire l'intensité globale de ton entraînement. C'est-à-dire que l'intensité, c'est sûr, ça se mesure parfois à la fois par la vitesse, mais aussi tout simplement par la distance, puisque de toute manière, même à intensité faible, je veux dire, si tu restais à 50% de ta vitesse max, mais que tu le faisais pendant 40 km, bah, au bout de 40 km, t'es fatigué, alors qu'au bout de 10, non, tu vois. Donc, c'est sûr que, ouais, cette idée de réduire l'intensité, je pense que c'est vachement important, parce que déjà, ça te, ce truc de bien quantifier, du coup, le stress que tu appliques à ton corps, ça te permet, du coup, de récupérer très facilement entre chaque séance. Donc, effectivement, t'as quand même une progression positive. Alors, t'es peut-être pas dans la course à l'augmentation de performance, dans cette démarche-là, mais ça t'empêche pas de progresser. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Après, je l'ai vu chez des gens, et je l'ai même vu chez moi, parce que moi, je suis potentiellement... Je m'en trouve souvent à aider des gens à structurer des entraînements, mais en fait, moi, je m'en applique jamais. Donc, je suis plus observateur de mon propre entraînement que véritable acteur, mais je l'ai bien vu, enfin, en réduisant le volume... ou plutôt même juste le nombre de séances et en faisant d'autres trucs à côté, je me suis retrouvé quand même à avoir des progressions de performance. Donc tu vois, comme quoi, c'est pas forcément, c'est avoir à s'assurer que tu as assez de temps en fait pour récupérer de ton effort, c'est presque plus important finalement que le volume que tu vas mettre. Et je pense qu'un truc qu'on se rend pas forcément compte, c'est-à-dire que là tu parles par exemple, on parle en kilométrage de ton entraînement, on parle d'une centaine de kilomètres par semaine. Il faut comprendre que cette centaine de kilomètres que toi tu fais, c'est pas, enfin, pour toi, c'est pas 80% de tes capacités. Tu vois, ni 90, ni 100%. C'est-à-dire que t'es capable de faire plus, hein. Tu pourrais encaisser plus, mais par contre, hein, si tu allais te mettre à 100% de tes capacités toutes les semaines, en fait, tu pourrais pas le faire la semaine suivante. Tu vois, tu aurais besoin d'une semaine plus cool derrière, ou en tout cas, tu tiendrais ça qu'un certain temps, d'où cette idée de fragilité dans les préparations vers la compétition. Là, quand tu t'es compté à 100 km, même si pour, je sais pas, n'importe qui, ça peut paraître beaucoup, et ben ce 100 km, c'est le 30 km de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un pourcentage de ce que tu peux te permettre de faire. Oui. Alors, bon, inventons des chiffres, hein, mais disons que ça va être sur 70%. À 70%, t'es à l'aise, parce que t'as beaucoup de marge avant d'arriver sur ton max. Donc, tu peux encaisser, en fait, une certaine, je sais pas, un gros coup de fatigue, tu te chopes une petite crève, tu manges pas très bien cette semaine, tu vois, sans dérailler complètement. Tu peux aller faire d'autres trucs, tu peux aller faire un peu de vélo, tu peux, enfin, tu peux te permettre de pas bien dormir une nuit, tu vois, enfin, sans être complètement détraqué, parce que t'es à 70% de stress appliqué par rapport aux 100% que tu peux encaisser, avant d'avoir des pépins. Donc c'est pour ça, je pense, enfin, ce truc de réduction de l'intensité, en fait, je pense la meilleure manière de le phraser, peu importe que tu décides de réduire les kilomètres ou la vitesse. Parce qu'après, ça dépend ce que tu fais, tu vois. On peut quand même faire beaucoup moins d'entraînement et quand même aller se faire une séance de fractionné où, à la fin, t'es tout rouge et tu te demandes si tu vas réussir à respirer à temps avant de t'évanouir, tu vois. Ça, tu peux quand même le faire, mais si dans l'ensemble de ton entraînement, t'as vraiment reculé, en fait, d'un cran, bah ça passe beaucoup mieux que si tu places ce même entraînement au milieu d'une semaine où t'as fait plus de 150 bornes et que tout a été à intensité plus élevée, quoi.
Oui, exactement, donc c'est différent selon tout le monde, et je crois qu'il y a un facteur aussi à prendre en compte, tout simplement, en ce moment en tout cas, c'est de se dire un peu à l'envie aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu que le sport de compétition est en train de passer un peu au second plan, pas le sport en général, parce que je pense qu'il faut qu'on le maintienne d'une manière ou d'une autre, et qu'on arrive à garder ce sport comme étant une priorité, pas nationale, mais tu vois, le sport ne doit pas être passé au second plan. Par contre, le sport en compétition aujourd'hui est en train de devenir... garder l'envie, en fait. Si vous sentez que vous avez envie d'aller courir et que le lendemain vous avez encore envie d'aller courir, bah, vous êtes dans ce seuil là, dans ce curseur qui fait que vous avez trouvé votre 70%, et ces 70% là, c'est votre seuil agréable, en fait. C'est agréable d'aller courir, vous en récupérez les bienfaits après, et en même temps vous progressez peut-être en faisant quelques séances de qualité de temps en temps, mais en tout cas vous perdez pas tout, quoi. La grosse interrogation, c'est plus lié à un vrai plan de compétition. Quand est-ce que tu recommences demain un vrai plan avec un calcul de pic de forme, etc., etc., par rapport à quelle compétition, etc. Et aujourd'hui, on n'a aucune certitude.
Ouais, c'est ça. Il te faut une date sur un calendrier pour pouvoir. Enfin, il faut au moins qu'il y ait un endroit quelque part. Tu dis, bah ok, là, je commence à bosser ça, mais l'objectif, c'est d'arriver justement à ce fameux 100% où tu frôles avec cette ligne. Tu veux surtout pas passer à 100, à 101.1. Enfin, 100.1, tu veux être à genre 99.9, parce que voilà, tu veux pas dépasser ça, du coup, mais faut une construction progressive vers ça. Donc il te faut une date, en fait, que ce soit dans 6 mois ou dans 3 ans, quoi qu'il arrive, il faut que t'aies cette date, quoi. Et sinon, c'est difficile de
faire quelque chose. Comme aujourd'hui, on n'a aucune certitude, ce qu'on peut essayer parfois de se faire, c'est de se dire, bon, ok, je vais quand même cibler une date, qui est la date de la course, qu'elle est nulle ou pas, et je vais travailler en fonction de ça. Ça a un avantage, c'est que tu te prépares, tu vas monter petit à petit en forme, etc. Et si elle a lieu, tant mieux. Si elle n'a pas lieu, bah, tant pis, ça ne servira pas à rien ce que tu as fait, ça va servir pour la suite de la saison. Ça, c'est un premier truc. Le plus dur à conserver dans ces cas-là, c'est juste la motivation, parce que au fond de toi, tu sais quand même que ça va être annulé. Enfin, moi, ma prochaine course devait être les 30 Grandes Canarias. Je croise les doigts pour qu'elle ait lieu. C'est en février, en Espagne. Bon, on n'est pas sûr à 100% que la course ait lieu, si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Où est-ce qu'on se dit? On attend de voir si elle est annulée, machin truc. Ou on se dit, bon, allez, on va peut-être y retourner quand même, et puis on va croiser les doigts pour que d'ici là, tout le monde tout aille un petit peu mieux. Après, je pense que on va voir arriver un truc qui est quand même en train de se mettre en place, c'est les organisateurs, les coureurs vont pas rester indéfiniment dans cette situation-là, et du coup, on va trouver des façons de courir un peu différentes. Tu peux imaginer que maintenant, il va y avoir des départs espacés, tu peux imaginer qu'il va y avoir des petits groupes. Moi, la dernière course que j'ai faite, c'était en termes de sécurité et de respect des consignes sanitaires, c'était parfait là-dessus. Ouais, tu pars avec un masque, donc c'est pas drôle, mais franchement, c'est pas grave. T'as des plots, t'es espacé, le protocole est respecté, etc. Et tu te dis que dans des conditions comme ça, peut-être qu'on va pouvoir en faire de plus en plus et un petit peu plus. Tu peux imaginer comme un fessier ardennais avec un départ, une course ouverte où tu es convoqué tel jour et puis tu vas faire et finalement ça ressemble presque à un contre-la-montre sur le parcours. Et puis tu vas découvrir des choses un peu surprenantes. Tu vas te rendre compte qu'il y a un mec qui est un petit français que personne ne connaissait qui faisait de la course d'orientation, finit à 30 secondes du temps de Kylian Jornet. Donc tu, finalement, peut-être que le sport va aussi se réinventer un peu autrement ou peut-être que. On va découvrir des bonnes choses de cette situation-là parce qu'on ne va pas pouvoir rester indéfiniment à dire oh, attends, la compète, elle est encore. Il va falloir qu'on trouve des solutions tous pour qu'on puisse continuer à faire du sport. Et la compétition, c'est juste le curseur final qui permet de savoir où est-ce que tu en étais vraiment au final.
Bah, c'est ça qui est sympa avec un sport comme la course à pied, c'est effectivement. Et le trail, peut-être encore plus, hein, parce que le fait d'être dans cet espace naturel, c'est plus facile en fait, d'étaler un peu les gens. Après, comment est-ce que tu fais pour étaler le départ d'un UTMB à 10 000 coureurs, tu vois? Bon, après, c'est pas 10 000 coureurs par course hein, non plus, mais bon, c'est comment tu fais pour étaler ça, tu vois? Ça, c'est quand même plus dur. Après, peut-être que tu dis, bah ok, le départ, il se fait sur X heures, et en fait, tu fais venir les gens petit à petit, et tu fais partir bien espacé. Je sais pas si c'est... Voilà, je sais pas comment on fait. Je suis pas assez calé.
Il y a pas de solution idéale. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des nouvelles contraintes, et qu'il va falloir les accepter, parce que franchement, je pense qu'on préfère tous les accepter et d'aller courir, que de plus pouvoir aller courir. Donc, il va falloir qu'on trouve de nouveaux trucs. Après, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, et là, on ramène encore une fois la discussion à l'âge, malheureusement. C'est qu'on n'est pas tous pressés de la même manière. Moi, j'estime que je suis pressé parce que j'ai 38 ans là. Et s'il se passe encore 2 ans sans compétition, par exemple, bon, bah, je peux dire au revoir à ce que j'ai en tête comme objectif chronométrique.
Ouais.
Peut-être que sur des classements de trail, peut-être que sur des courses d'un jour ou de je sais pas quoi, ok, pas de problème, là, je ne serai pas un problème. En revanche, moi, j'estime que si dans 2 ans, je n'ai pas fait ce que je vais aller chercher sur marathon ou Rétan, qui n'est pas celui que je fais à Valence, peut-être peu de chances de y arriver par après. Donc moi, j'ai cette urgence à gérer là, qui aujourd'hui m'emmerde un peu quand même, parce que je me dis, bon, bah, là, j'ai perdu un an dans ce premier objectif, et donc il faut que je me débrouille d'une manière ou d'une autre pour aller essayer de trouver un marathon, qui soit un marathon où il y a quand même un certain niveau, parce que tu as besoin de ça pour pouvoir te traîner et te mettre dans cette émulation positive d'une course de haut niveau. Et les contraintes actuelles qui font que finalement, ça s'oppose. Donc,
Ouais, bah c'est effectivement, je pense déjà une réadaptation du sport qui doit s'adapter à ce genre de contexte. Je veux dire, c'est le sport où t'as des foules. Enfin, je pense qu'il y a assez peu de sports où on a autant c'est les gens que les sas de départ des marathons sur route. Donc, enfin, j'ai pas d'exemple en tout cas qui me vient en tête. Hein. Donc, c'est sûr qu'il va falloir revoir notre définition, je pense, des départs de course. Donc effectivement une adaptation du sport. Après, donc j'aime bien ton idée, enfin, je te vois que j'ai fait pareil sans plus y réfléchir, mais de maintenir en fait lorsque t'as une course en tête, de maintenir cette date en fait. Tu vois, ta course c'est tel jour, bah ok, je me prépare comme jusqu'à tel jour. De toute façon, si c'est annulé, tu vas sûrement le savoir peut-être 1 ou 2 semaines avant. Au plus tard, c'est rare que ça soit plus proche, hein. Bah c'est pas grave, tu vas pas aller à ton 100% du cycle d'entraînement, tu te seras quand même fait du bien, tu pourras quand même te faire ta redescente tranquille. Bon, c'est dommage, mais rien ne t'empêche d'aller faire un objectif derrière, tu sais, d'avoir un objectif de repli où tu te dis, bah ok, la course, je sais pas trop où est annulée, bah écoute, je vais aller pas loin de chez moi et je vais me faire un truc qui va prendre sa place, tu vois. Enfin, ça peut être ça aussi, hein.
Ouais, ouais,
c'est ce que j'ai fait en tout cas.
Au final, il ne faut peut-être pas oublier aussi un paramètre, parce que là, c'est vrai qu'on parle de compétition, etc. Mais il y a une notion de plaisir aussi derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on court parce qu'on aime ça aussi. Donc ça, il faut le conserver. Il faut le conserver d'une certaine manière. Voilà, le curseur le plus compliqué, c'est la motivation. Et cette motivation-là, si tu es confiné, ben, c'est juste de rester en bonne santé. Si tu n'es plus confiné, ben, c'est de pouvoir t'améliorer. Et c'est ce curseur-là qui est le plus dur à maintenir quand tu sais que tu peux avoir que la récompense par la compétition. Ouais. Donc, il va falloir peut-être trouver d'autres solutions pour rester positif.
Ouais, voilà. Bon, ensuite, on s'adapte comme on peut, mais c'est vrai que là, on a vu, par exemple, cette année, une explosion des courses un peu non off, enfin off, quoi, tu vois, des gens qui ont voulu soit le jour d'une course, aller faire le même parcours, soit juste ils ont choisi autre chose. Ils se sont dit bah ok, il y aura pas de compétition. Moi j'aime mon sport, j'aime courir, j'ai envie de me préparer pour quelque chose parce que ça me stimule. Bah du coup ils sont allés préparer, enfin ils sont allés courir un chemin ou une boucle ou un truc, tu vois, qui était à leur portée. Et ça a pas besoin
Faire
d'être long, tu
un pas, c'est un FKT et c'est très bien.
vois. Ouais,
Et
donc.
ça a permis de découvrir d'autres choses au final, parce que c'est vrai que la compétition est très tournée sur ou la performance ou l'élite. Et parfois, tu vas découvrir des coins, tu vas faire aussi découvrir des choses. Nos petits copains Annecy qui sont allés traverser Annecy-Chamonix, bon, bah, ils ont ouvert une voie et ils ont montré ce truc un peu à tout le monde. Donc ça apporte aussi du positif. Ça remplacera jamais la compétition, parce que la compétition, il y a un truc en plus. En tout cas, il y a un truc de différent. Mais par contre, ouais, c'est l'occasion aussi de réinventer un peu sa discipline. Et aux États-Unis, c'est déjà comme ça depuis un petit moment. Déjà parce que la notion de trail est un peu différente là-bas. C'est un peu plus simple, tu vois. C'est plus vraiment très sauvage, très nature. Il y avait déjà cette idée de je vais aller faire une marque, je vais aller établir un record de temps sur cette période-là. Donc aujourd'hui, on le voit de plus en plus ici en Europe. Et tant mieux, c'est bien, peu importe, il faut se réinventer, il faut continuer à courir, il faut continuer à faire du sport. Le plus grand danger dans tout ça, ça serait d'un seul coup de se dire, bon, je ne fais plus rien.
Ouais, non, mais enfin, le but c'est ouais, de maintenir des objectifs en tout cas, et c'est juste, enfin, ce qui est intéressant avec l'objectif, c'est qu'on n'a pas besoin d'être compétitif, hein, mais l'idée d'avoir quelque chose que tu poses en fait dans le calendrier, c'est de dire, bah voilà, c'est les jours où j'ai pas envie, parce qu'il y a des jours où t'as pas envie, même si tu aimes ton sport, il y a des jours où t'as pas envie, et du coup cette idée de se dire, bah attends, j'aimerais quand même faire un truc sympa dans 3 mois ou dans 4 mois, bon allez, j'y vais quand même. Allez, c'est parti. Et ça te motive un petit peu. Et cet objectif peut être, enfin, c'est un truc que t'as décidé, t'as un parcours que t'as dessiné toi-même dans ton quartier. Ça peut être un truc que tu fais sur une piste, ça peut être une course dans la montagne, enfin, peu importe. C'est toi qui définis quel va être cet objectif. Hein. Et du coup, c'est voilà, c'est comme ça qu'on peut se motiver. L'avantage des courses officielles, c'est que c'est un truc un peu immuable. C'est pas, tu peux pas arriver la veille et faire, ouais, finalement, je le ferai demain.
Ça te tient et ça t'oblige. Maintenant, on a tous une raison de courir qui est différente selon les personnes. Quelle est sa motivation? Est-ce que ça va être une chronométrique? Est-ce que ça va être une distance? Est-ce que ça va être le poids ou son entretien, etc. Donc, une fois qu'on a ça, après, c'est bon, on peut y aller. Ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est que il faut, ce que tu disais là, c'est qu'il ne faut, faut pas attendre d'être bien pour aller courir. Des jours, on n'a pas envie d'aller courir. Des jours, on n'a pas envie de s'entraîner. Mais c'est parce que vous allez y aller que vous allez être bien après. Donc le schéma parfois est un peu dur, de se dire ouais, non, mais là, je ne veux pas y aller aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Ok, c'est possible parfois, ça peut être une alerte. Mais parfois, c'est en fait, ça, c'est pas grave que tu ne te sens pas très bien avant. Mais par contre, tu vas être bien après et ça, c'est le plus important. Donc vas-y. Il faut trouver sa source de motivation. Moi, elle est simple, hein, si je ne fais pas de sport pendant une semaine, j'ai mes enfants, ils vont mettre les baskets devant le palier, ils vont me dire, tu vas courir parce que tu es infernal, tu es horrible et tu tiens pas en rond. On a tous une motivation différente, on a tous un besoin différent. Donc il faut juste le trouver et s'adapter.
Ben, je suis entièrement d'accord avec toi, en tout cas, garder cette pratique plaisir, hein, même lorsqu'on est comme toi, par exemple, on cherche à s'entraîner quand même pour du haut niveau. Il faut le maintenir parce que sinon, bah ben, voilà, ce qui se passe, si on annule ta course, bah ben, tu, enfin, tu, si tu peux plus, si tu peux plus retrouver le plaisir, bah ben, du coup, c'est dommage parce que du coup, tu vas plus savourer ton sport, quoi. Donc, ben, je vais en faire un petit peu le mot de la fin. En tout cas, je te remercie, Romuald, d'avoir pris du temps pour partager un peu ton expérience et comment tu vis cette période, parce que voilà, on a tous des regards différents dessus. Et du coup, moi, je te souhaite en tout cas de pouvoir aller à la Transgran Canaria. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Ouais, en tout cas, je te souhaite de pouvoir y aller, même si on est sûr que tu seras au top de ta prépa, quoi qu'il arrive.
Merci. Merci Ben, c'est sympa pour votre temps. Et ouais, voilà, si j'avais moi juste un truc pour finir aussi de mon côté, je dirais le plus important c'est de continuer de faire du sport, peu importe comment, peu importe les conditions, peu importe si vous êtes confiné ou pas, faites quelque chose, vous verrez en retour, ça vous fera que du bien.
Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Entièrement d'accord. Merci beaucoup Romuald. C'est la fin de l'épisode. Si comme beaucoup, dans cette période de confinement, vous cherchez à vous mettre ou remettre à la course à pied, allez faire un tour sur le site web de la Clinique du Coureur pour découvrir comment pratiquer en minimisant le risque de blessure tout en vous faisant plaisir. Ou allez écouter l'épisode que j'ai fait avec Blaise Dubois, qui est le fondateur. Une étude totalement indépendante a démontré que les auditeurs du serment d'Hippocrate étaient 2,5 fois plus heureux. Propagez le bonheur autour de vous en partageant cet épisode et en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Puis, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, venez me rendre visite sur benviolo.com. Allez, à très bientôt.